Monsieur Gleiser a la parole.
Merci. Donc, je vais présenter ce point.
Et vous nous le faites à deux voix.
Oui, avec c'est Manuel, effectivement. Et puis, d'abord, Président, je vais profiter de ce rapport pour donner deux, trois informations. La première, remercier la ville de Metz d'avoir désigné Rachel Burgi comme conseillère métropolitaine, ce qui était un manque pour nous côté métropolitain parce que ça ne nous permettait pas forcément de pouvoir discuter des dossiers de la transition écologique en incluant pleinement les enjeux de la ville de Metz et donc ces choses faites aujourd'hui c'est corrigé. Et pour aller dans le même sens, vous avez accepté sur proposition des élus délégués que sont donc Rachel, Isabelle Viala, Manuel Brocard et moi-même de procéder à la mutualisation des services aujourd'hui entre la métropole et la ville de Metz. Et donc c'est un des résultats de nos concertations sur l'année 2022 et donc de ce rapport de développement durable. Et donc on aboutit aujourd'hui et à compter d'aujourd'hui à cette mutualisation des services qui va nous permettre d'accélérer et de gagner en efficacité et en efficience sur ces sujets de transition. Et la ville de Metz étant effectivement un moteur important de la métropole et la métropole portant aujourd'hui énormément de compétences en matière de transition écologique et de transition énergétique au service de l'ensemble des communes, mais tout particulièrement aussi au service de la commune centre, celle de la ville de Metz. Voilà, pour revenir sur le rapport, ce rapport est donc une conséquence légale de la loi du 12 juillet 2010, loi Grenelle de l'environnement 2, donc qui nous impose en tant que structure intercommunale, et comme l'a dit Monsieur Roch, effectivement un bilan annuel post pré-budgétaire de manière à éclairer les élus et éclairer les citoyens sur les décisions qui peuvent être prises en matière budgétaire. Ce rapport, effectivement, dans le cadre effectivement des mutualisations actuelles et des transformations qui ont eu lieu ces derniers temps en matière administrative et de gestion de la direction, n'a pas pu être préparé effectivement dans les délais pour être préparé, présenté avant le budget. Chose que nous corrigerons effectivement et que nous corrigerons également dans sa présentation pour le prochain rapport, parce que l'idée du prochain rapport, ce sera de se caler sur le plan climat de la métropole pour pouvoir avoir des indicateurs aujourd'hui qui sont des indicateurs qui sont connus, qui seront dans le plan climat et qui nous permettront vraiment d'évaluer concrètement les évolutions en matière de transition écologique et de transition énergétique sur notre territoire. Voilà. Donc, moi, je souhaitais, par rapport à ce rapport, faire un petit point, justement, sur le plan climat de la métropole. Plan climat que, donc, vous avez arrêté le 14 novembre 2022, qui est actuellement dans sa phase de consultation auprès des personnalités publiques associées et de l'État, MRAE, préfet, conseil régional. Nous sommes aujourd'hui dans la phase de réponse et ce plan climat sera soumis à enquête publique juste avant l'été, de manière à ce qu'on puisse l'adopter définitivement à l'automne prochain. Avec une idée, effectivement, c'est de mettre en œuvre maintenant les 34 actions concrètes qui ont découlé de la concertation et de la longue concertation qui a été mise en place sur ce plan climat. Concertation qui s'est faite autour des agents, des experts, des élus, des étudiants, des enfants, avec notamment les conseils municipaux des jeunes, le conseil de développement durable, l'ensemble des associations environnementales qui ont voulu s'associer au projet, et puis une grande enquête qui a associé l'ensemble des habitants de la métropole de manière à pouvoir prendre, étudier, analyser, évaluer l'ensemble des idées et des actions qui ont été proposées par tous les acteurs de la métropole. Voilà, donc ce travail de concertation a permis de sensibiliser ces acteurs aux enjeux de la transition écologique. Donc il y a eu aussi un grand travail pédagogique qui a été fait avec l'ensemble des acteurs et de trouver ensemble donc les solutions et les actions à mettre en place conjointement pour le territoire. Ce plan climat, après consultation et donc enquête publique, vous sera présenté, donc, comme je vous l'ai dit, à l'automne 2023. Et dans cette attente, nous nous mettons déjà en mouvement avec les communes et l'ensemble des partenaires afin de mettre en œuvre concrètement les mesures et les actions de ce plan. Voilà, je vais laisser Manuel sur le volet biodiversité. Vas-y. Merci Philippe.
Monsieur le Président, mes chers collègues, la présentation de ce rapport annuel est pour moi l'occasion de revenir rapidement sur des volets importants pour la biodiversité. Et les rappeler à quel point tous ensemble nous sommes engagés de manière positive, cohérente et performante dans une démarche globale qui s'inscrit pleinement dans les 17 objectifs de développement durable qui constituent l'agenda 2030 adopté en 2015 par les Nations Unies. Je parie notamment les trams vertes et bleues, avec le résultat concret des 31 fiches actions proposant des aménagements. Ce sont des outils d'aménagement durable qui contribuent à enrayer la perte de biodiversité liée à l'activité humaine, comme vous en doutez, et à maintenir et préserver les services rendus par la nature. Les actions sur la trame noire, avec des mesures d'accompagnement des communes sur leur politique d'extinction, de diminution de l'intensité et de remplacement de l'éclairage public pour préserver la biodiversité et particulièrement la faune nocturne. La nature en ville avec la charte de l'arbre qui a été adoptée en janvier 2022. Cette dernière incite toute structure propriétaire ou gestionnaire d'arbres à élaborer un plan d'action en faveur d'une gestion raisonnée et son patrimoine arboré. Par ailleurs, en adoptant le barème d'évaluation de la valeur de l'arbre, le BEVA, l'Eurométropole peut désormais donner une valeur financière à chaque arbre et son patrimoine, permettant à la fois de sensibiliser tous ceux qui interviennent sur le domaine public et un dédommagement financier en cas de dégâts causés aux arbres. Pour le moment, l'Eurométropole et 5 communes ont signé cette charte. Nul doute que nous serons bien plus nombreux dans un futur proche. Le plan d'aménagement forestier également, la politique de protection et de découverte des pelouses calcaires du pays messin, les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et naturels périurbains, sont d'autres éléments qui démontrent une nouvelle fois notre volonté d'aménager notre espace de manière cohérente avec le souci permanent de préserver la faune et la flore et leur garantir une place forte, la leur, au cœur de notre territoire. Je vous remercie et je redonne la parole à Philippe.
Je vais la céder au président. Eh bien, merci. Merci à vous deux. Qui demande la parole ? Alors, monsieur, oui, vous êtes derrière. Alors, monsieur Marchetti et madame Grollet. Alors, monsieur Marchetti.
Merci, monsieur le président. Je voulais revenir un petit peu sur la constitution donc de ce que vous appelez l'écosystème hydrogène. Comme vous le savez, nous souscrivons aux grandes orientations du projet de conversion des transports en commun à l'hydrogène. Nous avons déjà eu des délibérations à ce sujet, mais nous avons de réelles interrogations sur le montage juridique qui est proposé pour l'ensemble de cet écosystème et qui est en bonne partie passé d'ailleurs en bureau, au dernier bureau de la métropole, puisque c'est là qu'ont été approuvés les statuts de la nouvelle société par action simplifiée H2MES. Alors, nos interrogations portent sur un point très simple, monsieur le président, qui est le suivant. Depuis juin 2021 et la signature de l'accord de partenariat entre la métropole, l'UEM et John Cockerill, il n'y a eu aucune mise en concurrence dans ce dossier, on en a déjà parlé. Dans l'accord de partenariat, on nous disait qu'il n'y avait rien à craindre, que c'était juste pour présenter le dossier à ce moment-là à l'appel à projet qui était soumis par l'État au travers de l'ADEME, que c'était la phase de conception du projet, etc., et que les procédures de mise en concurrence viendraient plus tard. Un an et demi plus tard, donc, vous avez fait voter en bureau les statuts de cette nouvelle société avec l'UEM et John Cockerill, et toujours sans mise en concurrence. Et à nouveau, vous nous dites que finalement la procédure de mise en concurrence viendra plus tard, c'est toujours plus tard finalement, cette fois-ci pour l'attribution du marché de fourniture d'hydrogène. Alors je crois que parmi l'Assemblée, le suspense est total et que tout le monde se demande vraiment si la société H2MES, dont sont membres la métropole elle-même et l'UEM, aura vraiment le marché de l'hydrogène de la métropole in fine. De plus, le protocole qui est joint à ces fameux statuts, le protocole d'investissement, décrit déjà explicitement, je cite, que les parties conviennent que John Cockerill fournira l'électrolyseur et ses annexes à la société H2MES, et que, je cite encore, les opérations de maintenance et de gestion seront assurées par John Cockerill avec l'UEM. Donc là non plus, finalement, toujours pas de mise en concurrence, mais on dit carrément à qui sera attribuée la maintenance et la construction de l'électrolyseur et sa maintenance. Et j'avoue que je me demande vraiment comment c'est possible et c'est compatible avec les règles de la commande publique. Et je me demande également, puisque vous nous avez déjà fait part de toutes les hésitations de l'État dans ce dossier, s'il n'y a pas une part qui vient de ce problème-là et qui empêche l'État de soutenir cette démarche, puisqu'elle semble finalement davantage s'être construite pour l'instant au cercle des parages que dans cette enceinte.
Madame Grollet.
Un tout petit mot sur un point qui est évoqué dans ce rapport concernant les ZFE, les zones à faible émission mobilité, pour dire que pour nous, c'est toujours non. Une étude de préfiguration a été engagée pour un coût de 109 000 euros. Il s'agit de préfiguration et de la mise en œuvre de cette zone à faible émission mobilité à Metz Métropole. C'est une usine à gaz. Je ne sais pas si c'est vraiment souhaitable en ces temps de lutte contre les énergies fossiles. C'est inefficace, c'est injuste, c'est inapplicable, c'est une zone à forte exclusion et c'est tout le contraire de ce dont nos concitoyens ont besoin.
Alors, Madame Grollet, sur la ZFE, effectivement, les travaux sont en cours. Hein, pas cet après-midi même, où nous étions avec Béatrice Agamemnon, avec les cabinets juridiques et de préfiguration pour commencer à ouvrir le débat sur le sujet. Aujourd'hui, rien n'est arrêté. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a des obligations légales par rapport à ce dispositif et qu'il faudra qu'on arrive à remplir ces obligations légales. On sait aussi qu'il y a des débats au niveau national sur leur efficacité, sur les enjeux réels en matière de transition sur ces ZFE, et sur les risques sociaux, effectivement, que ça emporte. Mais pour l'instant, aucune évolution législative n'est prévue, et donc on se doit d'avancer sur le sujet. Avec les consignes qu'a donné François Grosdidier sur le sujet, c'est-à-dire d'exclure le moins possible, d'accompagner le mieux possible les métropolitains, mais également ceux qui viennent de l'extérieur, en essayant de conserver un accès le plus facile, mais le plus organisé et le plus compatible avec les enjeux de la ZFE, tout en essayant d'accompagner socialement l'ensemble des personnes qui seront touchées. On a le choix, on peut jouer sur les vignettes, critères, sur le zonage, sur les conséquences et l'accompagnement financier de ces conséquences. Donc tout ça est aujourd'hui au début de la concertation, concertation qui sera longue, hein, parce qu'elle nous amènera effectivement au 1er janvier 2025. Et donc, par rapport à ça, bien évidemment, on prendra l'ensemble de ces enjeux sociétaux et écologiques en compte. Vas-y, bien. Je te laisse sur le reste.
Merci. Monsieur Marchetti, c'est un peu un cavalier, je ne vois pas trop le rapport. On n'est pas sur le sujet aujourd'hui des transports ou des hydrogènes, mais je vous confirme que la mise en concurrence se fera pour la fourniture de l'hydrogène et donc ce sera lancé cette année, probablement au cours de l'été, selon le calendrier. S'il vous plaît. Sur la ZFE, Madame Grollet, je voudrais d'abord vous dire que, nous respectons la loi. Ils respectent les lois qu'on ait voté ou qu'on n'ait pas voté pour. On respecte la loi. Deuxièmement, le sujet des faibles émissions dans une métropole est un vrai sujet. C'est un sujet à la fois il participe à la lutte globale contre les gaz à effet de serre, mais aussi à la qualité de l'air qui est plus dégradée dans les métropoles qu'ailleurs. Bon. Que pour autant, je ne souhaite pas que ça se traduise en fracture territoriale et en fracture sociale. Et donc, qu'on pousse les études. On montre bien à quel point, d'ailleurs, nous devons traiter des sujets comme la pollution de l'air. Prends l'exemple de la 31. Je milite beaucoup et travaille dans d'autres cercles, dans d'autres assemblées pour le développement du ferroviaire et du fluvial. Et que je pense que les flux de poids lourds qui traversent la 31 sont infiniment plus dommageables à la qualité de l'air des Messins et Eurométropolitains que les quelques diesels qui vont venir du Saunois, du bassin Houillé ou du bassin sidérurgique pour aller faire des achats au centre-ville de Metz plutôt que de s'arrêter dans les zones périphériques. Donc, comme nous respectons la loi, nous appliquerons effectivement le minimum qu'imposera la loi. Et je ne souhaite pas qu'on impose davantage de restrictions, mais qu'en revanche, nous travaillons bien davantage. Je parlais d'A31, mais aussi sur nos propres émissions. quand je parle de nos propres émissions, c'est justement le projet de Rennes. Aujourd'hui que la première génération du Métis, que l'ensemble de nos autobus, que même les véhicules beaucoup plus légers achetés précédemment par la ville de Metz, l'étaient tous au diesel, et que la bascule sur l'hydrogène, justement, contribuera à purifier l'air. Y compris d'ailleurs les navettes fluviales électriques, je veux dire, y contribuent. Et l'ensemble de nos projets, je veux dire, de mobilité, de notre projet énergétique, du projet photovoltaïque, quoi, de notre volonté de développer les énergies renouvelables, c'est bien à lutter contre la pollution de l'air, qui sont les objectifs de cette ZFE, et qu'il ne faudrait pas, surtout pas réduire, ni d'un côté ni de l'autre, ni d'un côté Madame Grollet, ni de l'autre pour ceux qui voudraient bannir toutes les voitures, y compris électriques des centres-villes, ça ne se résume pas à l'exclusion ou non d'automobilistes dans des centres-villes. Le sujet est bien plus large. D'ailleurs, je pense que l'étude justement que nous commandons nous permettront d'avoir une approche beaucoup plus globale justement des émissions pour baisser les émissions néfastes à la santé publique et contribuant au dérèglement climatique. Bien, sur ce, nous ne votons pas. D'accord.